Vous êtes sur RTL.
Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et à la une ce matin, une probable bourde à 176 morts.
Le Boeing qui s'est écrasé il y a deux jours près de Téhéran a été abattu par un missile iranien. C'est ce que dit le Canada, mais aussi le Pentagone. Explication dès le début de ce journal. La réforme des retraites enfin dévoilée. Le terme âge d'équilibre apparaît au moins 39 fois dans le projet de loi. C'est le chiffon rouge pour les syndicats et cela alors que les discussions reprennent ce matin à Matignon. Dans l'actualité également, les premiers mots de Guy Joao depuis son arrestation rocambolesque en Écosse lorsqu'il a été pris pour Xavier Dupont de Ligonnès. La rentrée de l'ENA, promotion 2020-2021. Emmanuel Macron envisage de supprimer l'école faute de diversité. Alors, l'ENA reflète-t-elle la société française? Ce sera la question du 8h. Et puis nous irons faire un tour en Arabie Saoudite à la découverte des Malmotos. Ce sont les galériens du Dakar.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
On connaît les ambiances de salles de garde. On sait combien les médecins aiment plaisanter, qui sont confrontés tous les jours à la maladie, à la mort parfois. Galéjade de carabins entre collègues. Mais là, on a sans doute franchi une ligne rouge avec le Divan des médecins. Le Divan des médecins, c'est un groupe Facebook qui rassemble des milliers de docteurs. Ils échangent des avis professionnels, mais aussi, Émilie Beaujard, des commentaires bien lourdingues sur leurs patients.
Oui, au départ, c'est un groupe d'aide au diagnostic. 11 000 praticiens qui posent des questions à leur père en cas d'impasse ou d'interrogation. Sauf que les commentaires dérapent très vite. Alexis Vervial de France Asso Santé a eu accès aux messages de ce groupe et l'association dénonce une atteinte grave aux droits des patients.
Par exemple, on voit une patiente en surpoids. Il y a les commentaires, c'est « elle a des seins partout »,« waouh, les bourrelets ». On est choqué par les propos outrageants. Et notamment la violation du secret professionnel, puisqu'il y a des photos qui sont mal floutées ou des radios qui sont mal anonymisées.
On trouve aussi des propos racistes, homophobes. Une dérive intolérable, estime Benoît Blaise, le président du syndicat des jeunes médecins généralistes. Il espère une réponse forte de l'ordre des médecins.
Nous, on se met à la place des patients et on se dit que légitimement, ils peuvent être inquiets de savoir que leurs médecins potentiellement peuvent tenir ce genre de propos dans leur dos, en toute impunité. Et donc, nous, on a envie qu'il y ait des sanctions qui soient prises à l'encontre des médecins qui ont tenu ce genre de propos.
Et empêcher ainsi que cela se reproduise sur les réseaux sociaux ou dans des établissements de santé.
Récit RTL signé Émilie Beaujard.
RTL Matin 8h03.
Il n'y a plus beaucoup de doute. Le Boeing ukrainien qui s'est écrasé mercredi près de Téhéran a vraisemblablement été abattu par un missile iranien.
La catastrophe a fait 176 morts, essentiellement des Iraniens et des Canadiens. C'était juste après la riposte iranienne sur des bases militaires américaines en Irak. Hier soir, le Premier ministre canadien s'est montré très affirmatif. C'est l'un de ses tirs qui a touché l'appareil d'Ukraine Airlines. L'Iran parle de rumeurs, mais les Britanniques et les Américains ont la même information. Bonjour Pierre-Julien.
Bonjour Isabelle.
Est-ce que ça se tient?
Il y a eu tout d'abord ces impacts, ces pièces criblées de trous relevées sur les débris du Boeing 737. Il y a également cette vidéo qui montre bien dans la nuit, vers 6h15, heure de Téhéran, la lueur d'un engin touchant un avion dans le ciel. Et puis, cette région est constamment placée sous surveillance par les États-Unis. Des satellites ont enregistré l'activation d'une batterie mobile de missiles, puis les signaux du tir d'un, voire de deux engins.
Et c'est une boulette dramatique ou éventuellement un acte volontaire?
Les Iraniens voulaient abattre un avion, mais pas un Boeing civil bien sûr. À 600 km de là, ils venaient de lancer des missiles balistiques sur deux bases américaines en Irak. Téhéran s'attendait à subir des représailles. Voilà pourquoi sa défense anti-aérienne avait été placée en alerte rouge, prête à la première menace. Maintenant, les responsables vont devoir expliquer pourquoi un ordre de tir a été donné sur une cible non vérifiée.
Et est-ce que c'est déjà arrivé, Pierre?
Allez, juste un exemple, en juillet 1988, en pleine guerre Iran-Irak, dans le golfe Persique, ce sont les marins du croiseur USS Vincennes, doté d'un tout nouveau système soi-disant ultra fiable, l'Aegis, qui ont confondu un Airbus d'Iranair avec un avion de combat F-14 iranien. Bilan, 290 innocents tués.
Merci Pierre-Julien du service étranger d'RTL. Toute la vérité doit être faite, dit le ministre des Affaires étrangères ce matin sur RTL. Jean-Yves Le Drian qui précise que la France est disponible pour livrer son expertise. Au Royaume-Uni, le Mexit prend le pas sur le Brexit. Les députés ont enfin donné leur feu vert hier à une sortie de l'Union européenne. Mais ce qui domine dans l'actualité britannique, c'est la décision du prince Harry et de Meghan de prendre leur distance avec la monarchie. Elisabeth II a été prise de court. Elle donne quelques jours à la famille royale pour trouver une solution.
RTL 8h05.
Venons-en maintenant à la réforme des retraites. Son contenu a été dévoilé hier soir. Et la pomme de discorde est toujours là, bien en évidence.
Oui, deux projets de loi ont été transmis aux partenaires sociaux. Et il est toujours question du fameux âge pivot, cette mesure qui est tous les syndicats jusqu'aux plus réformistes. Si l'âge pivot reste dans la loi, c'est non, c'est clair, c'est ce que disait hier encore le patron de la CFDT, Laurent Berger. Eh bien, le terme âge d'équilibre apparaît une quarantaine de fois dans le texte. Un texte qui impose de prévoir l'équilibre financier du système futur, du futur système universel. C'est l'objet des discussions qui débutent dans une demi-heure à peu près à Matignon. Une réunion totalement inutile pour les opposants à la réforme qui ont manifesté hier dans toute la France.
C'est un moyen d'essayer d'alpaguer la CFDT, les réformistes dedans, pour pouvoir faire un sort de petit accord.
Si cette conférence de financement, c'est juste pour nous faire des petits aménagements, une façon justement d'essayer d'endormir l'opposition. Non, ce qu'on demande, c'est le retrait de la réforme, pur et simple, et bien évidemment, le retrait de l'âge pivot.
Des manifestants au micro RTL de Gauthier de Lambugard. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
C'est vrai qu'on a un peu de mal à comprendre. À quoi sert cette conférence de financement des retraites si l'âge pivot est déjà dans la loi ?
Bah oui, en fait, pour certains syndicats, c'est un peu le dernier espoir de faire bouger les lignes avant le Conseil des ministres, avant la présentation officielle du projet de loi le 24 janvier prochain. En soi, le principe de l'âge pivot, l'âge d'équilibre, avait déjà été annoncé par le Premier ministre, prévu des mois auparavant par le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye. Donc c'est agaçant, oui. Mais ce n'est pas vraiment une surprise pour les syndicats. La CFDT, comme l'UNSA, s'attendait à retrouver des mesures budgétaires écrites noir sur blanc. Bon, mais un projet, tant qu'il n'est pas gravé dans le marbre de la loi, tant qu'il n'est pas voté, explique un cadre de la CFDT, un projet peut toujours bouger. Vous l'avez compris, on parle là d'un très mince espoir. Ce qui est sûr, c'est que les syndicats ont passé un maximum de coups de fil ces derniers jours, ont prévenu à nouveau, au-delà du texte, le Premier ministre doit parler, dire qu'il retire l'âge pivot. En coulisses, les négociateurs expliquent que les réunions d'aujourd'hui, les bilatérales, syndicat par syndicat, vont être tendues. Et que si Édouard Philippe ne donne pas des signes d'apaisement, parler du financement n'aura, je cite, « plus aucun intérêt, on a d'autres choses à faire », me dit-on agacé. On a d'autres choses à faire que d'enfiler des perles, parce que les perles, on s'en fait déjà des colliers depuis des mois.
Explication RTL signée Anaïs Bouissou. Et avant même que le contenu de la réforme soit dévoilé, l'intersyndicale a appelé à de nouvelles actions mardi, mercredi et jeudi prochain. Les modalités seront précisées après la journée de mobilisation de samedi.
Dans un instant, l'interview exclusive de Guy Joao, l'homme qui a été pris pour Dupont de Ligonnès. Restez avec nous.
RTL 8h07.
RTL Matin.
RTL 8h09, la suite du journal Isabelle Choquet, Yves Calvi.
Son nom a fait la une de l'actualité en octobre dernier. Guy Joao parle pour la première fois et c'est sur M6.
Guy Joao, c'est cet homme qui a été pris pour Xavier Dupont de Ligonnès et qui a été arrêté par la police écossaise. Il a fallu 24 heures pour dissiper le malentendu. Pour la première fois, il revient sur cet épisode au micro de François Vignol.
Lorsqu'on m'a dit que j'étais un criminel, un assassin, j'ai dit bon, pas de problème, je n'ai jamais tué personne. Donc deux policiers me prennent. M'emmène me mettre les menottes et m'emmène me mettre dans un petit fourgon de police à l'arrière, comme les chiens. On est dans la science-fiction, c'est inimaginable.
Témoignage exclusif recueilli par François Vignol. Reportage complet à suivre sur M6 dans le 12-45 et le 19-45. Dans le Var, le forcené qui était retranché depuis mercredi soir avec sa fille de 3 ans a finalement été interpellé cette nuit à Esparron de Palière. Le GIGN est intervenu, la petite fille est saine et sauve. On vous a raconté hier sur RTL l'histoire de ce bug informatique dans un magasin casino de Montpellier. Des prix qui s'affolent avec des rabais jusqu'à moins 90%. Ça vous met la télé à 30 euros. Forcément, à ce tarif-là, ça a été l'émeute. La police a dû intervenir pour faire sortir les clients qui refusaient de partir. Et maintenant, Raphaël Vantard, est-ce qu'ils vont pouvoir garder leur butin ?
Eh bien non, aucun consommateur de cet hypermarché de Montpellier n'aura à gain de cause. Deux principes s'opposent dans le droit de la consommation. D'un côté, il y a bien l'article L121. Il vous permet de contester facilement un prix à la caisse dès lors que vous prouvez qu'il est affiché moins cher en rayon. Mais là, pour le cas du casino de Montpellier, un autre principe du droit de la consommation s'applique. Il faut que le prix affiché soit en accord avec la valeur réelle de l'objet. Or, avec 30 euros pour un téléviseur, 15 euros pour une tablette ou un robot de cuisine, le prix affiché est beaucoup, beaucoup trop loin de sa valeur réelle pour que le consommateur ait gain de cause. L'enseigne qui cède des objets d'ailleurs à un prix aussi bas risque une condamnation pour vente à perte, une pratique interdite en France. La seule chose finalement que les consommateurs de Montpellier peuvent obtenir, c'est un geste commercial de la part de Casino après cette erreur d'étiquetage.
Les précisions RTL de Raphaël Vantard.
On est fixé.
RTL 8h12.
C'était la rentrée de l'ENA cette semaine. Hein. La promotion 2020-2021 est arrivée à Strasbourg.
Une rentrée un peu spéciale. Oui. Dans quelques semaines, Frédéric Thirier doit rendre son rapport sur la réforme de l'ENA, voire sa disparition. Car après la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron s'était prononcé pour la suppression de cette prestigieuse école. Pas assez de diversité dans le recrutement, selon le chef de l'État. Alors, est-ce que l'ENA ressemble à la société française ?
C'est la question du 8h.
Avec vous, Yannick Collant, bonjour.
Bonjour.
Y a-t-il enfin un peu de diversité au pays des énarques ?
Oui, mais c'est léger. Hein. Les élèves de l'ENA ne ressemblent pas encore à la société française, mais il y a des signes encourageants cette année. Par exemple, dans cette toute nouvelle promotion, le chiffre qui surprend, c'est que plus d'un tiers des élèves sont des boursiers. 36,6%, c'est beaucoup et c'est nettement plus que les années précédentes. Deuxième élément, 55% des nouveaux élèves sont nés en province. Les énarques ne viennent pas tous de région parisienne. En revanche, les élèves de l'ENA sont encore le plus souvent des enfants de cadres ou de professions libérales. Il y a toujours peu d'enfants d'agriculteurs ou d'artisans. Et si vous regardez les photos de promo affichées dans le hall de l'ENA, vous voyez tout de suite un autre problème de diversité. Ces photos sont très blanches et masculines et ça ne s'améliore pas. Seulement 35% de femmes dans cette nouvelle promotion qui vient de faire sa rentrée. Les femmes n'osent pas se présenter à ce concours. Elles laissent la place aux hommes qui représentent presque deux tiers des candidats.
Et alors, que fait l'ENA pour diversifier son recrutement ?
Eh bien, l'ENA mise beaucoup sur sa classe prépa égalité des chances. 36 étudiants brillants mais issus de milieux modestes ou de quartiers difficiles qui n'auraient jamais imaginé tenter l'ENA. Sélectionnés sur dossier, ils sont logés, ils bénéficient d'une bourse et sont préparés pour ce concours d'entrée difficile. Mais en moyenne, chaque année, un seul le réussit. C'est encore trop peu et c'est pour cela que l'école a décidé d'ouvrir en 2019 une deuxième prépa égalité des chances à Strasbourg pour améliorer ce chiffre. Enfin, l'ENA a ouvert quelques places pour des profils un peu différents. 3 places pour des chercheurs scientifiques et 9 places pour des militaires, des officiers de la gendarmerie et de l'armée de terre qui partagent en ce moment le quotidien des énarques.
La question de 8h avec Yannick Collant.
RTL, il est 8h14.
Direction maintenant l'Arabie Saoudite pour la 42e édition du Dakar.
Après 5 étapes, c'est l'Espagnol Carlos Sainz qui est en tête dans la catégorie auto. Le premier Français, Stéphane Peter Hansel, est 3e. Chez les motos, c'est l'Américain Brabec qui mène la danse. Dans cette catégorie, les motos, il y a aussi des amateurs qui n'ont pas d'équipe, ceux que l'on appelle les malmotos, Isabelle Langer.
Les malmotos, ce sont les galériens du Dakar, ceux qui n'ont pas d'assistance. Non seulement ils pilotent la journée, mais le soir au bivouac, il faut mettre encore les mains dans le cambouis. Benjamin Mello, 47e au général.
On fait les vidanges, filtre à air, tout ça, et on s'assure que la moto est prête pour demain. Après, on va prendre une petite douche en général, le briefing, et on essaie d'aller se coucher pas trop tard, mais c'est pas toujours le cas.
Pourtant, les conditions se sont améliorées par rapport au premier Dakar, comme s'en souvient l'une des légendes de la course, Hubert Auriol, de passage hier sur le bivouac.
Les tout premiers Dakar, il y a beaucoup de concurrents qui sont partis avec le sac à dos et tout leur bardeur. Et en général, ça se terminait rapidement et pas très bien. Donc il fallait trouver une solution pour qu'ils aient un peu d'assistance et au moins de quoi emmener quelques pièces, un sac de couchage, etc. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée des malmotos.
Désormais, grâce à une grande marque française de lubrifiants, les malmotos sont un peu plus choyés. Chaque soir, notamment, leurs mâles les attendent. Dedans, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Chacun y met ce dont il a le plus besoin, mais aussi quelques effets personnels. Romain Leloup, 27 ans.
J'emmène surtout des photos, principalement la famille, ma conjointe, j'ai mon petit chat aussi, voilà, ça remonte le moral.
Parce que les malmotos n'ont qu'un but sur le Dakar, être à l'arrivée le 17 janvier à Riyad.
Isabelle Langer, l'envoyée spéciale d'RTL sur ce Dakar. Ils sont à un match de Tokyo. Les volleyeurs français jouent ce soir la finale du tournoi de qualification olympique contre l'Allemagne. Rendez-vous à 20h10. Le gagnant décroche l'unique billet pour les JO l'été prochain au Japon. En football, on connaît désormais l'affiche des demi-finales de la Coupe de la Ligue. Ce sera Reims-PSG et Lyon-Lille. Match à jouer les 21 et 22 janvier. Ce soir, c'est championnat avec Rennes-Marseille à 20h45. Soir de Ligue 1 sur RTL de 20h à 23h.
On termine avec l'histoire du jour.
Histoire d'un petit voleur vraiment pas doué. Ce jeune homme a profité des soldes pour voler des chaussures de sport en devanture d'un magasin de Toulouse. Il y en avait pour 670 euros tout de même. Alors il a été interpellé quelques centaines de mètres plus loin, mais de toute façon, il n'aurait pas fait grand-chose de son butin. Il n'avait que des pieds gauches. Bah oui, on n'expose jamais les paires complètes. Visiblement, le Spaggiari de la basket l'ignorait et c'est comme ça qu'après, on se lève du pied gauche.
Et c'était donc le journal d'Isabelle Choquet.
RTL 8h16, Yves Calvier.
Dans un instant, ne manquez pas notre nouveau rendez-vous RTL Reportage consacré aujourd'hui au boom de l'escalade en salle. L'escalade qui sera d'ailleurs sport olympique pour la première fois cette année.
Allez, 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 allez.
Allez, yes.
C'est beaucoup de force, quoi.
C'est du gainage, la confiance en soi. Pour moi, c'est un super moyen de couper avec le boulot.
Allez, allez.
Raphaël, 9 ans. Quand tu montes, t'as pas envie de t'arrêter, t'as envie de continuer en haut. Et quand t'es en haut, bah, t'es content parce que t'as réussi et puis voilà.
Rendez-vous à 8h35 pour découvrir l'intégralité du reportage de Sophie Orange.